Jean Weissenbach est né en 1946 à Strasbourg. Il est diplômé en pharmacie et docteur en sciences. Il a commencé sa carrière au CNRS. Il a dirigé plusieurs laboratoires associés au CNRS. Depuis, en 1993, il est devenu responsable du programme de la carte génétique de l'homme à Généton et directeur scientifique de Généton. Et depuis 1997, il est directeur du Génoscope, Centre national de séquençage du génome. Donc, je lui passe toutes. Ces publications sont essentiellement des publications scientifiques techniques. Mais il nous a semblé que c'était véritablement l'homme idoine pour nous parler du séquençage du génome humain, de point, comment et pourquoi. Voilà, je lui cède la parole. Merci.
Merci. Alors, je vais tout de suite me permettre de bouleverser le programme, parce que je vais peut-être commencer par répondre à la question « pourquoi ?» avant d'aborder le « comment ». Je pense que tout le monde ici sait que les cellules contiennent un ensemble d'instructions. Cet ensemble d'instructions qu'on appelle... Bon, j'espère que vous m'entendez mieux. Bien. Donc cet ensemble d'instructions qu'on appelle le génome, et chaque instruction étant un gène, ces instructions sont codées sous forme chimique. Et cette forme chimique, en fait, est une énorme molécule constituée de quatre éléments de base, qu'on appelle encore d'ailleurs les bases. Et c'est l'enchaînement de ces quatre éléments qui permet de coder toutes ces instructions de la même manière qu'on peut, par des successions d'octets dans le monde de l'informatique, coder tout un ensemble d'informations pour des programmes, pour toutes sortes de données dans le domaine de l'informatique. Donc là, on est exactement dans le même schéma, mais au lieu que cette information soit codée sous forme binaire et sous forme d'octet magnétique, ici, c'est un code chimique. Et on sait décoder la succession de ces différents éléments de base qui permettent donc ensuite d'essayer de recomprendre le vivant. On sait décoder à peu près cette succession d'éléments depuis environ le milieu des années 70, c'est-à-dire 25 ans en gros, c'est pas beaucoup. Et depuis qu'on sait faire ça, en fait, on rêve un peu de pouvoir appliquer cette technique à l'homme, à nous-mêmes, bien sûr. Parce que les instructions qui nous contrôlent sont bien sûr l'objet d'attentions multiples. Et certaines d'entre elles ont une importance cruciale dans le domaine des maladies, mais aussi dans tout un tas d'autres domaines. Et la technologie a pas mal progressé depuis 25 ans. Il y a 25 ans, on savait lire des très petites successions de ces signes, qu'on appelle des séquences. Je vais peut-être commencer par la première diapositive, si ça marche. Alors, on va passer en mode diapositive, ça ira mieux. Donc cette succession d'éléments qu'on appelle la séquence et qui est donc représentée par, en fait, qu'on symbolise par l'enchaînement de quatre lettres, puisqu'on a quatre signes qu'on a représentés par quatre lettres. Eh bien, on sait depuis 25 ans lire des successions sur quelques centaines de ces lettres. Et on a progressé. Il y a une dizaine d'années, on savait lire des successions sur quelques milliers de lettres. Et depuis le milieu des années 90, on sait lire des successions sur des millions de lettres. Mais on est toujours obligé de faire des opérations unitaires, comme on va le voir. Et en fait, ce qu'on est surtout arrivé à faire, c'est à multiplier le nombre d'opérations unitaires qu'on fait. Dans une opération unitaire, on peut lire la succession d'environ 500 à 1000 de ces signes. Et cette opération s'appelle le séquençage. Et c'est donc l'ensemble de ces manipulations qui, de séquençage. On ne va pas rentrer dans le détail de la manière chimique ou la manière biochimique dont on s'y prend, ça n'est pas extrêmement passionnant, mais c'est extrêmement important, bien sûr. Et cet ensemble de manipulations, donc, peut aujourd'hui être répété des millions de fois. C'est parce qu'on est capable de la répéter des millions de fois qu'on est capable de lire des génomes de très grande taille. Et je vous rappelle que le génome humain est constitué de 3 milliards de ces signes, sous forme de 23 chromosomes. Donc chaque chromosome renferme en moyenne à peu près 150 millions de signes de ces bases. Et c'est une molécule, en fait, constitue un chromosome. Donc on a 23 molécules constituées chacune de sous-ensembles de 150 millions d'unités, ce qui est quand même tout à fait considérable. Et bien sûr, comme je l'ai dit, ce qui fait rêver l'homme, c'est de pouvoir avoir accès à la totalité de cette information, parce que cette information est cruciale à toute une série de titres qu'on va brièvement passer en revue. La première raison pour laquelle on s'intéresse à la séquence de nos génomes, c'est d'abord parce que on peut procéder à l'inventaire de toutes les instructions d'un organisme, donc en l'occurrence de l'homme. Et ceci, en fait, est, pour des organismes qu'on croyait bien connaître, a été une première surprise, parce qu'on a commencé, bien sûr, à séquencer des génomes de très petits organismes, comme quelques bactéries, comme la levure. Et on s'est très vite rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup plus de gènes dans ces organismes qu'on le soupçonnait. Et la façon dont on dénombrait les gènes dans ces organismes, en fait, était directement dérivée de la génétique. Et tout simplement, on pouvait identifier un gène le jour où ce gène existait sous une forme variante, sous une forme mutée, qui donnait naissance à un organisme un peu modifié. Et donc, on faisait un inventaire de toutes les mutations qu'on connaît dans ces organismes, que ce soit la levure, que ce soit le colibacille, et on croyait comme ça avoir une idée relativement précise du nombre de gènes de ces organismes, mais en fait on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus de gènes que la génétique ne permet d'en voir en première analyse. Donc ça, c'était une première surprise. Et donc rien que le fait de séquencer l'ensemble de ces instructions permet donc déjà de certainement mesurer notre ignorance, mais aussi de se poser à ce moment-là tout un ensemble de nouvelles questions, puisqu'il y a tout un tas de fonctions, tout un tas d'instructions qu'on ne connaît pas. Ça va, et ça commence déjà, à susciter tout un ensemble de travaux dans le domaine scientifique pour essayer de comprendre à quoi servent ces instructions. À partir du moment où on connaît la séquence des instructions, des gènes, en fait, on connaît aussi la séquence de ce qu'on appelle les protéines, qui sont en fait la forme sous laquelle ces instructions s'expriment. Et ceci a beaucoup d'importance sur le plan scientifique, parce que pouvoir connaître la séquence d'une protéine, ça permet de pouvoir avoir une idée de sa forme au niveau tridimensionnel, et aussi, par là, et dans un certain nombre de cas, d'avoir une idée du type de fonction que peuvent avoir ces protéines. Cette séquence est aussi la source de tout un ensemble de nouvelles approches en biologie qu'on ne va pas passer en revue ici parce que ça a un caractère un peu fastidieux. C'est également le support pour, disons, l'obtention de données globales, et ceci est très important parce qu'aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir voir ce qui se passe dans une cellule, non pas au niveau d'un gène et de son produit, mais au niveau de la totalité des gènes d'une cellule. Donc, pas pour les cellules humaines, mais pour les cellules de bactéries dont je viens de parler, ou pour les cellules de levure. Aujourd'hui, il y a 6000 gènes chez la levure. On est capable, à un instant donné, de savoir comment s'exprime chacun de ces 6000 gènes. Donc on peut avoir une image complète de ce qui se passe pour chacun de ces gènes, et ceci, auparavant, était tout à fait impossible, d'abord sur le plan technique, mais aussi la technologie qui permet ceci, bien sûr, nécessite la connaissance de la séquence. C'est parce qu'on dispose de cette connaissance de la séquence qu'il est possible de pouvoir voir simultanément comment s'exprime l'ensemble des gènes d'une cellule. Alors ceci est bien sûr important pour tous ces organismes, mais ceci est aussi important pour l'homme. Aujourd'hui, on connaît déjà un grand nombre de gènes chez l'homme, plusieurs dizaines de milliers, et on commence aussi à essayer de savoir comment s'expriment dans un tissu donné tous ces milliers de gènes qu'on connaît déjà, et un intérêt particulier, bien sûr, par exemple, pour les cellules de cancer, pour les tissus de tumeur. On peut avoir une idée de tout ce qui se passe, enfin pas de tout, mais disons déjà avoir une idée relativement globale sur un très grand nombre de gènes, savoir comment tous ces gènes vont s'exprimer dans une cellule de tumeur. Et il y a un gros programme qui est en train de se lancer, dont le journal Le Monde s'est fait l'écho il y a quelques jours, vous avez peut-être vu dans les journaux. Il y a un grand programme qui s'appelle la carte d'identité des tumeurs, et cette carte d'identité des tumeurs, bien sûr, est basée sur la connaissance qu'on a à l'heure actuelle de nos gènes, de la séquence de nos gènes. Et on s'est aussi aperçu, à partir du moment où on pouvait disposer de cet outil, de toutes ces séquences pour toute une série d'organismes, on s'est aussi rendu compte de la manière dont ces organismes étaient reliés les uns aux autres, parce qu'ils sont tous dérivés d'un ancêtre commun qu'on ne connaît pas, qui remonte à plusieurs milliards d'années, probablement plus de 3 milliards d'années, et néanmoins, on peut retrouver, disons, d'abord des éléments qui sont communs, mais on peut aussi avoir une idée des échanges qui peuvent se produire entre différents organismes, et ceci de façon tout à fait naturelle. Donc, les organismes génétiquement modifiés existent dans la nature depuis des milliards d'années, et les organismes continuent à se modifier génétiquement de façon tout à fait naturelle, échangent des gènes, vous avez des transferts horizontaux de gènes entre des espèces différentes, et c'est la séquence qui a permis de mettre ces phénomènes en évidence. Donc ça, c'est, disons, le tableau très succinct de ce qui se passe, de ce qui intéresse avant tout le scientifique, le biologiste, mais il y a bien sûr, pour ce qui concerne le génome humain, d'autres intérêts. Il y a les intérêts médicaux, et ceux-ci sont certainement le moteur essentiel qui ont, disons, poussé la technologie pour qu'on soit aujourd'hui pratiquement en mesure de pouvoir disposer de la séquence du génome humain, disons, d'ici très peu de temps. Alors pourquoi est-ce que la médecine s'intéresse tellement à la connaissance du génome ? Elle s'y intéresse d'abord parce que c'est un outil d'identification des gènes qui sont responsables de maladies. Et lorsqu'on parle de gènes responsables de maladies, on pense bien sûr d'abord aux maladies génétiques. Ceci est vrai, ça fait déjà de nombreuses années qu'on est capable d'identifier ces gènes de maladies génétiques, mais ceci se faisait jusqu'à présent à un rythme qui était extrêmement lent. Alors que, à partir du moment où on dispose ou on va disposer de la séquence, le rythme de l'identification de ces gènes responsables de maladies va s'accélérer de façon considérable. Juste essayer de vous expliquer en fait pourquoi. En fait, notre génome, et le génome, disons, de l'ensemble des organismes supérieurs, n'est pas très simple à comprendre. Lorsqu'on aligne tous ces signes, tous ces A, ces T, ces G, ces C, à vue d'œil, on n'y comprend strictement rien. Donc on essaye de les comprendre en les analysant avec des programmes informatiques, et ces programmes informatiques permettent de faire différentes choses. D'abord, ils permettent de comparer les génomes les uns aux autres, et la comparaison des génomes les uns aux autres, la comparaison des séquences les unes avec les autres, permet de mettre en évidence des choses qui sont conservées d'une espèce à l'autre. Et les choses qui sont conservées entre les espèces, en fait, sont les choses qui ont une signification sur le plan biologique, sont les choses qui sont importantes sur le plan biologique et sont précisément les gènes. Il faut, et ça j'ai peut-être oublié de le dire, il faut avoir à l'esprit qu'en fait, les gènes des organismes, donc les instructions de ces organismes supérieurs, ne sont pas d'un seul tenant, mais sont fractionnés en petits morceaux. En fait, une instruction peut être fractionnée en 6-7 morceaux, de même qu'une phrase dans le langage humain est fractionnée en un certain nombre de mots. Donc ici, j'ai représenté en fait ces petites fractions d'instructions et ces programmes informatiques en fait sont en mesure de détecter ces fractions d'instructions à l'aide des comparaisons dont je parlais tout à l'heure, mais aussi à l'aide d'autres programmes. Enfin, il y a d'autres programmes qui permettent également d'essayer de déceler ces parties vraiment importantes dans l'ensemble du génome. Et ces programmes sont, eux, basés sur, sont capables de faire des prédictions. Donc on leur donne un certain nombre de critères, bien sûr, et ils regardent quelles sont les séquences qui répondent aux critères en question. Et les séquences qui répondent aux critères en question ont de fortes chances, mais pas toujours, de correspondre à des portions d'instructions. Alors là où on a beaucoup plus de difficultés aujourd'hui, disons, ça c'est un petit morceau de séquence de génome de mammifères, par exemple. Donc on est capable de repérer les éléments qui sont importants et qui sont donc noyés dans une masse de séquences dont on n'a aucune idée de la fonction et qui probablement n'en a pas beaucoup. Mais ce qui est très difficile, c'est de savoir où commence un gène et où il finit. Donc là, on a déjà beaucoup plus de difficultés. Et de temps en temps, ces fameux programmes voient des choses qui, en fait, n'existent pas. Donc ici, je l'ai représenté en noir. Des portions de ce qu'un programme informatique pourrait penser fait partie d'une instruction, et en fait, dans la réalité, ça n'en fait pas partie. Donc il y a des fausses prédictions, et en plus, il y a de temps en temps, ici c'est représenté en grisé, des portions d'instructions que ces programmes sont incapables de détecter. Donc l'analyse informatique qu'on fait des génomes qu'on connaît aujourd'hui, ou des fractions de génomes qu'on connaît aujourd'hui, est notoirement insuffisante. Et il va falloir passer de nombreuses années pour vraiment arriver à décortiquer, disons, la totalité des instructions, rien que sur le plan de savoir qu'est-ce qui fait partie véritablement des gènes et qu'est-ce qui n'en fait pas partie. Et une fois qu'on aura fait ça, eh bien, effectivement, on se posera d'autres questions, on essaiera de comprendre, mais toutes ces instructions qu'on a maintenant bien identifiées, est-ce qu'on est capable de savoir à quoi elles servent? Et là aussi, ça va certainement prendre, je dirais, ça va même prendre encore beaucoup plus de temps, ça va prendre sans doute des dizaines d'années pour arriver à savoir à quoi servent l'ensemble des instructions qui sont présentes dans un génome comme un génome de mammifères. Il y en a certaines, on peut, par analogie, par comparaison avec ce qu'on connaît pour d'autres espèces, on peut déjà avoir une idée extrêmement précise de la fonction de certains gènes, mais dans un grand nombre de cas, on n'a strictement aucune idée de la fonction pour laquelle un gène peut coder. Donc, en fait, la séquence du génome humain, il ne faut pas du tout la voir comme une fin, mais il faut vraiment la voir comme un début. Ça va être le démarrage d'une nouvelle façon de faire de la biologie, d'une nouvelle façon de faire de la médecine et qui, dont les résultats, dont les applications, en fait, ne vont pas nous arriver dans les 2-3 ans, mais vont s'échelonner probablement sur plusieurs dizaines d'années. Donc, les retombées en matière de génome humain, ne vous attendez pas à ce que d'ici 2-3 ans, on sache, on connaisse tous les gènes qui prédisposent au diabète ou à aux maladies cardiovasculaires ou à que sais-je, ça prendra beaucoup, beaucoup de temps parce que c'est très compliqué et je vais essayer de vous faire comprendre tout à l'heure pourquoi c'est si compliqué. Donc, encore une fois, la séquence va nous servir d'outil d'identification rapide des gènes responsables de maladies. C'est des choses qu'on sait déjà faire depuis une quinzaine d'années, depuis qu'on a découvert les gènes des maladies génétiques les plus graves, comme la myopathie de Duchenne, comme la mucoviscidose, comme beaucoup d'autres. On connaît aujourd'hui à peu près un millier ou même plus des gènes impliqués dans les maladies génétiques, mais à côté de ces maladies génétiques, qui sont en fait des maladies qui sont fort heureusement relativement rares, enfin disons la fréquence de ces maladies n'est pas très élevée, par contre le nombre de maladies existantes lui est extrêmement élevé, on en connaît plus de 5000, donc ce sont de nombreuses maladies qui sont heureusement rares. Ces gènes-là sont relativement faciles à trouver parce qu'ils s'héritent strictement selon les lois de Mendel. Et parce qu'ils s'héritent strictement selon les lois de Mendel, on dispose de bons outils conceptuels pour arriver à les retrouver. Là aussi, je ne rentrerai pas dans les détails. Et la première application qu'on a pu tirer, disons, de l'identification de ces gènes responsables de maladies, ça a été des applications de diagnostic. À partir du moment où on connaît un gène, on est capable de prédire si un enfant dans une famille à risque, un enfant à naître par exemple, est porteur du gène muté en question ou s'il est porteur de la copie normale du gène. Donc ça c'est quand même un progrès considérable, c'est cette utilisation de la séquence comme outil diagnostique. Par la suite, cet outil servira également à identifier d'autres gènes qui, eux, sont ce qu'on appelle les gènes des maladies communes. Et ces gènes de maladies communes, ces gènes de prédisposition aux maladies communes, en fait, ne s'héritent pas strictement selon la loi de Mendel. C'est-à-dire que lorsque vous héritez d'un gène de prédisposition, il y a une certaine probabilité pour que vous puissiez faire ou puissiez être atteint de la maladie en question. C'est-à-dire que lorsque vous héritez d'un allèle de prédisposition au diabète, il n'y a pas du tout de certitude que vous allez faire un diabète. On est incapable de pouvoir prédire ceci pour l'instant. Et on est juste capable de dire que vous avez des chances statistiques plus importantes dans une famille diabétique d'avoir un diabète qu'autre chose. De toute façon, pour l'instant, les gènes de prédisposition au diabète, j'ai fait peut-être un peu de science-fiction, pour l'instant, on n'en a pratiquement pas identifié. Mais ces maladies communes, à l'inverse des maladies génétiques dont j'ai parlé tout à l'heure, sont des maladies qui sont extrêmement fréquentes, qui atteignent des fractions importantes de la population, de l'ordre du pourcent, ou même plus du pourcent. Le diabète non insulinodépendant touche à peu près 5% de la population. Autre intérêt de faire de la séquence, ça ne s'applique pas directement à l'homme, mais ça s'applique à tous les pathogènes, à tous les microbes qui nous infectent régulièrement. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un problème majeur qui est celui de la résistance de plus en plus importante de ces agents pathogènes aux agents antimicrobiens, aux antibiotiques. Et une voie, enfin un espoir pour pouvoir justement arriver à reprendre le dessus sur ces organismes pathogènes va consister à mieux les connaître. Pour mieux les connaître, on séquence leur génome et donc on va pouvoir être en mesure d'identifier des gènes qui pourraient être des cibles ou des protéines qui pourraient être des cibles pour des nouveaux agents antimicrobiens. Et c'est pour ça que l'industrie pharmaceutique s'intéresse évidemment de manière considérable à la séquence de ces agents pathogènes, de même que l'industrie pharmaceutique aussi s'intéresse de façon primordiale à la séquence du génome humain. La troisième raison, je crois que la troisième raison en fait pour s'intéresser au génome et pour essayer de d'utiliser ces informations, ce sont la connaissance du génome en fait est une source de toute une série d'applications dans le monde de l'industrie. J'ai déjà parlé de l'industrie pharmaceutique, mais il y en a d'autres. La connaissance, et là aussi on s'aperçoit qu'on finalement on ne sait quasiment rien, la connaissance de tous les microbes de l'environnement, aujourd'hui on en est pratiquement au stade zéro. Rendez-vous compte que pratiquement plus de 95% des microbes qui sont dans les milieux naturels qui nous entourent, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans la terre, que ce soit dans d'autres milieux, nous ne les connaissons pas. Et pourquoi ne les connaissons-nous pas? Tout simplement parce que nous sommes incapables de les mettre en culture. Les microbes que nous connaissons sont ceux que nous avons réussi à isoler et à faire pousser sur des milieux synthétiques. Mais ceux pour lesquels on a échoué, et il y en a, c'est la très grosse majorité, eh bien, nous ne les connaissons pas. Or, aujourd'hui, la séquence des génomes de ces microbes est possible, et c'est par ce biais-là qu'on va pouvoir aborder ce problème de cet environnement microbien, ou de ces environnements microbiens, et ceci a bien sûr beaucoup d'importance, notamment dans les problèmes de protection de l'environnement, dans essayer de comprendre des mécanismes de dépollution. N'oublions pas que ces microbes que nous ne connaissons pas nous rendent des services absolument considérables, puisque c'est eux qui purifient l'eau, c'est eux qui aussi dégagent de l'oxygène, qui mangent du carbone, enfin qui mangent du CO2, des choses comme ça. Donc, ils ont une importance considérable. Bon, je n'insisterai pas non plus sur l'aspect agronomie et agroalimentaire. Vous avez tous entendu parler d'OGM, je ne veux pas en parler ici. Je pense que de toute façon, il y a certainement un autre orateur qui en parlera beaucoup mieux que moi. Mais lorsqu'on réalise la séquence de ces organismes, on se rend aussi compte que très souvent, on identifie des protéines pour lesquelles on peut avoir des usages industriels. Par exemple, dans des processus de fermentation, ou par exemple, il existe toute une série de micro-organismes qui sont capables de pousser à des très hautes températures. On peut isoler des enzymes de ces micro-organismes qui, eux aussi, sont capables de fonctionner à des très hautes températures, et ceci est extrêmement intéressant pour toute une série de process industriels. Donc, voilà, disons de façon très résumée, la raison pour laquelle la séquence de tous les génomes, et pas seulement du génome humain, est quelque chose qui disons, primordial. Alors, je vais maintenant essayer de me concentrer sur un point que j'ai déjà vaguement évoqué, qui est celui de ces fameuses maladies communes, donc ces maladies qui ont une composante génétique, mais qui ont également, à côté de cette composante génétique, qui apparaissent, qui se déclenchent sans doute pour toute une autre série de raisons, sans doute en raison du mode de vie que qu'ont les gens qui sont atteints de ces maladies, et puis aussi pour d'autres raisons. Et pour ça, je vais être, disons, obligé de refaire un tout petit peu de génétique et de revenir sur mais d'essayer de vous faire comprendre le processus fondamental de la génétique, disons, qui vient tout de suite après les lois de Mendel. La première chose qu'il faut que vous réalisiez bien, je pense que vous devez le savoir, c'est qu'en fait, nous n'avons pas un génome, nous avons deux génomes. Nous avons deux copies de notre génome. Nous avons une copie qui vient de notre père et nous avons une copie qui vient de notre mère. Et nous transmettons une copie à chacun de nos enfants, et l'autre copie dont nos enfants héritent, c'est celle du conjoint avec qui nous faisons ces enfants. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on ne va pas transmettre dans son intégralité la copie que nous recevons de notre père ou de notre mère, mais on va transmettre une copie qui est composite. Et cette copie est composite, bien sûr, parce que déjà, on a 23 paires de chromosomes, donc il y aura des chromosomes qui peuvent venir d'un parent et d'autres chromosomes qui peuvent venir de l'autre parent, mais en fait, ça ne se passe même pas comme ça. C'est qu'au niveau de chacun de ces chromosomes, il va y avoir un rebrassage des génomes. Et ceci par un mécanisme qu'on connaît depuis de très nombreuses années, pratiquement depuis le début de ce siècle, depuis les années 1910, par là. Ce mécanisme, on l'appelle la recombinaison génétique. Et donc, ce qui se passe, c'est que, ici, vous avez, disons, un chromosome d'un parent et le chromosome de l'autre parent. Ce qui va se passer, c'est que ces deux chromosomes vont échanger une portion de leur ADN. Et on va retrouver dans la descendance une nouvelle combinaison avec un chromosome formé en partie du chromosome venant d'un des parents et en partie venant de l'autre parent. Et ceci se produit ça se produit à chaque méiose. Et à chaque méiose, donc, on va avoir une nouvelle combinaison chromosomique qui va apparaître. Et c'est la raison pour laquelle nos enfants sont différents de nous, mais nous ressemblent quand même, ressemblent à chacun des parents, et ainsi de suite. Et lorsqu'on réfléchit au processus sur, disons, de nombreuses générations, bon, ici, on fait une hypothèse extrêmement simpliste de dire qu'en fait, il y a tous les individus descendent du même ancêtre, bon, mettons Adam. Adam avait deux chromosomes qui n'étaient pas tout à fait pareils, et tous les gens qui descendent d'Adam vont avoir, ou bien ça c'est disons un enfant d'Adam et de Ève, si vous préférez, ça c'est le chromosome d'Adam, le chromosome d'Ève, et leurs enfants, ou leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, disons même plus loin, vont avoir des portions provenant de l'un et des portions provenant de l'autre. Or, bon, bien sûr, on ne descend pas vraiment d'Adam et de Ève, mais sans doute, on descend quand même d'un nombre très restreint d'ancêtres, difficile de savoir combien. Là aussi, j'ai été très simpliste. J'ai imaginé, en fait, qu'on pouvait avoir des portions de chromosomes. Ici, on n'en est même plus au niveau d'un chromosome, au niveau d'une petite portion d'un chromosome, mais qu'on pourrait avoir, par exemple, à un moment donné, dans l'évolution de notre espèce, ou des espèces qui nous ont précédés, un petit ensemble de chromosomes, et que par exemple 26% des chromosomes sont noirs, 22% des chromosomes sont rouges, 12% bleus, etc. On va voir tout à l'heure comment on arrive à distinguer la couleur des différents chromosomes. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Mais supposons qu'à un moment donné de notre évolution, la situation était la suivante. Et supposons maintenant que chez un de ses ancêtres, en fait, est apparue une mutation. Et cette mutation va prédisposer à la maladie en question. J'ai pris comme exemple la maladie d'Alzheimer. C'est un des exemples qu'aujourd'hui on comprend le mieux, parce qu'on a mis en évidence justement un gène de prédisposition à la maladie d'Alzheimer, encore qu'on ne comprend pas pourquoi ce gène prédispose, ou bien la forme variante de ce gène, pourquoi cette forme variante prédispose à cette maladie d'Alzheimer. Donc, cet allèle de prédisposition va apparaître dans cette population du fait d'une mutation. Et maintenant, rappelez-vous que tout ça, ça va recombiner de génération en génération, et qu'au bout d'un certain nombre de générations, aujourd'hui, on va avoir des chromosomes qui, par rapport à ces ancêtres-là, vont être composés de petites portions de chacun de ces chromosomes, rouge, vert, bleu, et ainsi de suite. Et de temps en temps, un de nos congénères va hériter de l'allèle de prédisposition à la maladie d'Alzheimer. Mais encore une fois, ceci ne va pas signifier qu'il va faire un Alzheimer, ça va juste indiquer qu'il a une chance bien plus élevée, 10 fois plus élevée, 100 fois plus élevée, de faire un Alzheimer que celui qui n'hérite pas de cette allèle de prédisposition. Et ce que on peut conclure, c'est qu'en fait, aujourd'hui, eh bien, des individus qui sont à risque pour cette maladie d'Alzheimer ont hérité, à partir d'un ancêtre commun, cette petite région qu'ils ont en commun, cette petite région qu'ils partagent. Et cette région partagée, en fait, donc, est le vestige d'un effet fondateur qui était l'apparition de la mutation chez un de nos ancêtres un pithécanthrope ou peut-être un individu plus récent, peut-être un homme de Cro-Magnon, qui que sais-je. Mais en tous les cas, la mutation est apparue il y a très longtemps. Et on va maintenant, on dispose d'outils, pas encore très efficaces, mais qui le deviennent de plus en plus, qui vont nous permettre en fait de remonter, de faire de l'archéologie, d'une certaine manière, et de remonter vers la région que ces individus ont en commun. Et donc, on va essayer, comme on sait que ces individus ont une région en commun, on pourra postuler que dans la région en question, il y a la mutation prédisposant à la maladie d'Alzheimer. Et donc, on va analyser de l'ADN de très nombreux individus, aussi bien des individus témoins qui ne font pas d'Alzheimer que des individus qui sont malades. Alors pour faire ça, et c'est ce qui va nous permettre justement de définir les couleurs de ces différents chromosomes, comme j'ai parlé tout à l'heure, on dispose en fait d'un moyen. Et ce moyen est le suivant. Dans une séquence, dans un morceau de séquence, de temps en temps apparaissent des différences. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que nous ne sommes pas tous strictement identiques. Comme le sont par exemple des vrais jumeaux. Les vrais jumeaux, eux, n'ont au point de vue de leur génome, n'ont strictement aucune différence. Nous, nous en avons tous un nombre considérable, pratiquement à raison d'une base sur 1000, va apparaître une différence entre deux chromosomes, entre deux régions, enfin entre deux morceaux de chromosomes. Donc on va avoir des copies qui sont globalement identiques avec ces petites différences. Et ces petites différences, bon, on utilise aujourd'hui un terme de jargon, je vais donc utiliser un terme de jargon qui s'appelle des polymorphismes. Donc les différences en question sont des polymorphismes, c'est-à-dire qu'on a différentes formes à un certain endroit de notre génome. Et ces polymorphismes sont donc très très nombreux. Et bien sûr, pour, disons, disposer d'une très grande collection de ces polymorphismes, il va falloir qu'on dispose de la séquence de notre génome et qu'en parallèle, non seulement on séquence un seul génome, mais qu'on séquence, en fait, un certain nombre de génomes pour pouvoir justement voir ces différences entre les différents génomes. Et nous-mêmes, qui avons deux copies d'un génome, en fait, à plein d'endroits de ces deux copies, existent de telles différences, et c'est ce qui permet de distinguer le chromosome que nous héritons de notre père du chromosome que nous héritons de notre mère. Alors, on peut pratiquement faire un code digital de cette manière-là. On va donc pouvoir, à 2 bits, si vous voulez, on va donc pouvoir analyser sur des grandes portions de génome les endroits où se situent des différences entre cette copie ici et la copie du bas. Ici, vous avez 4 endroits où vous avez des différences, qui sont des différences qu'on peut symboliser par noir et blanc, parce qu'il n'y a que 2 formes existant à ce niveau-là, mais ça permet en fait de distinguer ces 2 copies, et c'est ce qui permet en fait de définir ces couleurs comme je le faisais auparavant. Donc on va avoir toute une série de successions d'éléments binaires qui vont être différents d'un chromosome à l'autre, alors que sur une position donnée, on pourra très bien avoir la même chose. Lorsqu'on fait une succession d'un grand nombre de positions, on verra que chacun de ces chromosomes est bien distinct et bien définissable. Et ici, notre allèle de prédisposition va se trouver noyé au milieu de ces petites différences et va constituer lui-même une différence aussi, mais une parmi d'autres. La plupart de ces différences, en fait, la plupart de ces mutations qui sont apparues au cours de l'évolution n'ont strictement aucun effet sur notre santé. Ce sont ce qu'on appelle des mutations silencieuses, et la très grande majorité des mutations qui nous touchent, heureusement, sont des mutations silencieuses. Et c'est comme ça qu'elles s'accumulent au fur et à mesure des générations. Alors, rappelez-vous que nos chromosomes, quand ils se transmettent de génération en génération, recombinent. Donc ici, on avait l'allèle de prédisposition dans l'individu où il est apparu. Dans son fils, chez son fils ou sa fille, il va déjà être toute cette portion pourra déjà être reniée du fait d'une recombinaison avec le chromosome du conjoint, et ainsi de suite. Et de génération en génération, le segment qui porte l'allèle de prédisposition va être de plus en plus petit. Et donc, pour arriver à le retrouver, bien sûr, il va falloir qu'on regarde de façon très très fine la région en question. Mais plus la mutation est apparue, disons, précocement dans l'évolution de notre espèce, eh bien, plus la petite portion qui contient cette mutation qui transmet le gène de prédisposition, plus cette portion sera petite. Et lorsqu'on va faire de l'analyse systématique de l'ADN dans une population d'individus qui sont atteints d'Alzheimer, on va retrouver chez ces Alzheimer, on va retrouver cette portion commune au milieu de tout un tas de choses qui, elles, ne le sont pas. Mais là où les choses se compliquent, c'est qu'en fait, la maladie d'Alzheimer n'est pas causée par la mutation d'un seul gène, mais elle peut également apparaître à la suite d'une anomalie dans un autre gène. Et ça, c'est un facteur de complication, et c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons pour lesquelles ces gènes de prédisposition, en fait, sont extrêmement difficiles à trouver aujourd'hui. Parce que lorsque vous regroupez tout un tas de gens qui font des diabètes insulinodépendants, eh bien, ces gens qui font des diabètes insulinodépendants font ces diabètes pour des raisons qui sont différentes. Donc vous allez avoir une population qui est extrêmement hétérogène et la situation peut très vite devenir complètement indécorticable. Alors, on a en partie des moyens d'essayer de réduire cet écheveau extrêmement complexe en procédant à des analyses familiales et en essayant de voir si dans une famille, évidemment, on sait que c'est la même mutation qui est transmise. Donc on peut comme ça délimiter de grosses régions, mais seulement de très grosses régions du génome. Et donc on va pouvoir grouper ensemble des familles dans lesquelles ce sont les mêmes régions du génome, mais alors à ce moment-là, ce sont des très grosses régions, c'est pas comme ici. On va essayer de grouper ensemble des familles où ce sont les mêmes régions qui sont transmises de génération en génération, des régions contenant des gènes de prédisposition. Et puis, c'est pour ça aussi qu'on a, de temps en temps, on va avoir des individus qui, en fait, n'ont pas l'allèle de prédisposition en question, tout simplement parce que, encore une fois, c'est une autre mutation apparue dans un autre gène qui, chez ces gens-là, a provoqué l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Alors, chez les non-atteints, on va avoir une situation complètement différente. On va retrouver des portions de nos chromosomes en couleur, de toutes les couleurs, rien en commun. Et de temps en temps, néanmoins, on va en trouver un orange, tout simplement, parce que ça peut arriver pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, ça, c'était non pas l'ancêtre qui a eu la mutation, mais c'était quelqu'un qui avait cette portion orange à l'époque et qui n'avait pas la mutation. Et deuxième raison pour laquelle ça peut arriver, c'est que tout simplement, encore une fois, si vous héritez du gène de prédisposition, il n'y a pas de certitude absolue que vous fassiez un Alzheimer. Donc, on a vraiment une situation très compliquée dans toutes ces maladies communes. Et cette situation très compliquée fait que pour l'instant, on n'a pratiquement pas trouvé de gènes de prédisposition à ces maladies communes, bien qu'on ait déjà consacré des millions et des millions, même des milliards sans doute de francs, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique ou que ce soit dans le domaine de la recherche publique, pour essayer de retrouver ces gènes. Et c'est à peu près tout ce que je dirais sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on essaye d'avoir ces connaissances et pourquoi est-ce qu'on essaie de connaître notre génome. Et je vais, dans la dernière partie de cet exposé, un peu essayer de vous faire comprendre un peu comment on s'y prend pour séquencer un génome. Alors ça va rester très superficiel, mais c'est aussi pour essayer de vous faire comprendre les enjeux actuellement dans ce domaine. Donc la première chose que je vous ai dite au départ, c'est qu'en fait, on n'était pas capable de séquencer sur des très grandes longueurs, on était uniquement capable de lire la succession des nucléotides, des bases, sur 500 à 1000 éléments. Donc ce qu'on va faire lorsqu'on a une grosse molécule, comme ici, on va la couper en petits morceaux. Et on va la couper en petits morceaux, non seulement on va couper une molécule en petits morceaux, mais on va couper un grand nombre de copies de cette molécule en petits morceaux, et les coupures, on va les introduire au hasard. Donc on va avoir toute une population de petits morceaux qui sont partiellement chevauchants. Et on va lire la séquence à l'extrémité de chacun de ces petits morceaux. Et puis, lorsqu'on on a lu beaucoup de séquences sur ces petits morceaux, donc la séquence lue, c'est une succession de lettres, encore une fois, on va retrouver des petits morceaux qui sont chevauchants. Et dans ces petits morceaux qui sont chevauchants, bien sûr, la séquence de la partie chevauchante est identique. Et c'est comme ça, par le fait de retrouver des parties de séquence identiques dans des morceaux chevauchants, qu'on va arriver à reconstituer la séquence de l'ensemble de du fragment qu'on voulait connaître. Et donc on va faire ça un très grand nombre de fois. Donc vous voyez déjà, rien que pour avoir la séquence de, je ne sais pas combien il y a de nucléotides ici, mettons une cinquantaine, rien que pour avoir la séquence d'une cinquantaine, vous êtes obligé de les séquencer plusieurs fois. Et en fait aujourd'hui on s'aperçoit qu'il faut séquencer pratiquement entre 6 et 8 fois donc de façon très très redondante, pour avoir la séquence complète d'un fragment plus grand. Et même des fois, on a des cas où on reste avec des trous, et ces cas ne sont pas si rares que ça. Donc ça, c'est très schématiquement la façon dont on s'y prend, et ça vous explique aussi pourquoi un génome comme le nôtre, qui fait 3 milliards de signes, et qu'on va séquencer par fraction de 500, donc en principe, ça devrait faire un nombre relativement raisonnable, mettons 6 millions fois 500, je crois que ça fait 3 milliards, enfin je ne sais pas trop, ouais, ça doit être ça. Mais comme il faut qu'on le fasse 10 fois, ce n'est pas 6 millions d'opérations qu'il faut qu'on fasse, c'est 60 millions de lectures qu'il faut qu'on fasse pour séquencer l'ensemble du génome. Alors comme ça, c'est très très compliqué, en fait, on va procéder en deux temps. Dans un premier temps, ce qu'on a fait, on a cassé les chromosomes en gros morceaux, des morceaux de quelques centaines, de 100 000 ou de 200 000 éléments. Et ce sont ces gros morceaux qu'on va ensuite recasser en petits morceaux. Et ce sont ces petits morceaux sur lesquels on va procéder à la manipulation de séquençage. Et comme c'est un programme qui est tellement gigantesque, eh bien aujourd'hui ce programme est réalisé à l'échelle internationale avec des participations d'un certain nombre de pays, une participation très majoritaire des États-Unis, mais aussi la participation de quelques autres pays qui sont... résumé ici, donc les États-Unis font à peu près pas loin des deux tiers, les Anglais font presque un tiers, les Japonais font à peu près 5%, les Français et les Allemands font entre 2 et 3%, et la Chine, qui s'est mise sur les rangs assez récemment, fait de l'ordre du pourcent. Et rien que ça, ça représente encore des quantités de travail considérables, et ça occupe pratiquement en France le centre de séquençage que je dirige, à, disons, plus de 50% de son activité sur l'année 99 et aussi sur l'année qui est en cours maintenant. Donc, je vais essayer de revenir à ça. Donc, on a ces grands fragments. On va les couper en très petits fragments. Et puis ensuite, ces très petits fragments sont lus et ça va nous permettre de reconstituer. Donc en les lisant avec une redondance, par exemple, d'un facteur 5, on peut reconstituer des fragments relativement plus grands, mais qui ne représentent pas encore la totalité du fragment de départ. Ici, il y a des trous. Non seulement il y a des trous, mais en plus, ces différents morceaux, on ne sait pas toujours, on sait même rarement, à ce niveau-là, si on a réalisé cette opération avec une redondance de 5 fois, on sait très rarement les ordonner et les orienter les uns par rapport aux autres. Donc, aujourd'hui, est effectivement en cours, puisque l'opération globale prend beaucoup de temps, il a été décidé, en fait, de procéder par étapes, et ce qui est en cours, c'est la réalisation d'une première ébauche de la séquence de notre génome. Cette première ébauche devrait être disponible pour le printemps de cette année. Donc ça tombe vraiment très bien qu'on fasse que cet ensemble de conférences ait lieu cette année. Et à partir de cette première ébauche, en fait, va en être faite une deuxième version avec un nombre de copies, donc une redondance de séquençage plus importante, d'un facteur, disons, ici on est à 5, ici on sera entre 8 et 10. Et on aura une version qui sera de meilleure qualité parce que les fragments seront un peu plus longs. Donc les fragments reconstitués seront un peu plus longs, et puis on arrivera dans un grand nombre de cas à les ordonner, à les orienter. Mais il restera des trous, et pour combler ces trous, ça prend en fait un temps considérable, parce que là, on ne peut plus procéder à des opérations qui sont menées à très grande échelle de façon quasi industrielle. Ici, on va être obligé de travailler de façon très ciblée. Et travailler de façon très ciblée, ça occupe beaucoup plus de personnes que de travailler de façon très automatisée. Donc, ceci explique aussi pourquoi ce travail de finition, donc de bouchage de trous, en fait, a un coût qui est presque identique au travail qui va consister à réaliser cette deuxième version de notre génome qui sera disponible pour soit la fin de cette année, soit, disons, le premier trimestre de l'année prochaine. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau du projet public. Mais comme vous en rendez compte, en fait, les possibilités d'application sont telles que non seulement ça intéresse beaucoup les laboratoires publics, mais ça intéresse aussi beaucoup des intérêts privés. Et c'est la raison pour laquelle s'est constituée assez récemment une entreprise de taille considérable. Et cette entreprise, en fait, a elle aussi pour objectif de séquencer le génome humain, mais par une stratégie qui, cette fois-ci, est complètement différente de celle qui est réalisée dans le programme public, où, encore une fois, on coupe en grands morceaux et on passe ensuite au séquençage de chacun de ces grands morceaux. Ici, la personne qui est le chercheur qui est à l'origine de ce projet, qui s'appelle Craig Venter, a lui décidé de tout couper en petits morceaux d'emblée et de séquencer tous ces petits morceaux. Et puis ensuite, à l'aide de programmes informatiques quand même très puissants, d'essayer de reconstituer à partir donc d'un nombre de lectures correspondant à 30-35 millions. Initialement, il avait même prévu d'en faire pratiquement 70, c'est-à-dire 10 fois, faire avec une redondance de 10. Donc d'essayer de reconstituer notre génome à partir de ceci. Et en fait, il a fait une expérience préliminaire avec un génome plus petit, qui est le génome de la mouche du vinaigre, de la drosophile. Ce travail est quasiment terminé, mais il s'est quand même rendu compte que les morceaux qu'il arrivait à reconstituer étaient de taille relativement petite et qu'il ne pouvait pas les ordonner les uns par rapport aux autres. Il fallait qu'il ait absolument d'autres informations. Donc, en ce qui concerne le génome humain, en fait, sa stratégie ne marche pas vraiment, mais néanmoins, il va pouvoir profiter de ce qui se fait dans le domaine public pour, disons, utiliser les données du domaine public. Alors, s'il voulait essayer de réassembler à partir de ses propres données uniquement, il arriverait à quelque chose qui serait assez chaotique, mais fort heureusement, il va pouvoir utiliser la première ébauche qui va donc être disponible au printemps, et ceci de la manière suivante. Ici, en bleu, vous avez, disons, les résultats obtenus par le séquençage du projet, par le projet public de séquençage. Et ici en rouge, vous avez les données que va obtenir son entreprise. Alors évidemment, le nom a une consonance en français qui est assez intéressante, qui s'appelle Celera. Et l'entreprise Celera va pouvoir reconstituer dans un certain nombre de cas. À l'aide des séquences dont ils disposent, vont pouvoir de temps en temps fusionner deux fragments à partir des données de séquences publiques et ou de temps en temps allonger un autre fragment. Mais si ces séquences-là n'étaient pas disponibles, tous ces petits fragments produits par Celera, en fait, ils ne pourraient pas les ancrer sur le génome. Donc il y a aujourd'hui des discussions entre le projet public et Celera sur le fait de pouvoir faire cette opération de fusion des deux types de données, mais Celera est quand même une entreprise qui a des intérêts commerciaux extrêmement importants, et ce qu'il désirerait avoir, c'est avoir un espèce de monopole sur ce qu'on appelle l'annotation, l'interprétation de la séquence à ce niveau-là pendant un an. Et ceci est bien sûr parfaitement inacceptable puisque les situations de monopole sont quand même particulièrement irritantes. Donc aujourd'hui, cette entreprise qui bien sûr a besoin de beaucoup de capitaux et qui entend faire beaucoup d'argent s'est lancée dans une espèce de guerre de communiqués que la presse s'empresse de reprendre très très régulièrement. Et je crois que nous devons, et vous devez surtout essayer de faire la part des choses, il y a effectivement un travail très important qui est fait par cette entreprise, mais ce travail est avant tout destiné à être revendu à des clients, ces clients étant les industries pharmaceutiques, mais ça ne constitue, avoir des morceaux comme ça, ça ne constitue quand même pas une séquence du génome humain telle que nous la rêvons, c'est-à-dire une séquence où il n'y aura pas de trou. Donc je crois que j'ai déjà pris beaucoup de temps. Je vais donc sans doute m'arrêter à ce niveau-là. Je n'ai pas du tout parlé et pas du tout abordé les problèmes d'éthique, mais je pense qu'on pourra peut-être les aborder au cours des questions. Je vous remercie.
Tout de suite des questions. Ah, une ici, tout de suite, on prend la première. Une ici. Une, monsieur d'abord. Bon, levez-vous, hein, merci.
Jean-Émile Lemoine, Centre de recherche de Houston. On croit savoir qu'environ 5% du génome code pour les protéines chez l'être humain. Ma question est double. Pourquoi 5% et pas 1% ou 20 ou 100%? Et deuxièmement, comment peut-on tenter d'interpréter ce mystère de la nature?
Alors, le 5% est effectivement assez proche de la réalité. On ne connaît pas la réalité d'ailleurs. Si ce sera 3, 2 ou 5%. Pourquoi? Je pense que personne n'a la réponse. Mais en tous les cas, le fait que notre génome soit morcelé, que chaque instruction soit constituée de petites portions séparées par des portions qui, elles, n'ont pas de véritable fonction, en fait, ces portions qui sont entre les morceaux d'instruction peuvent varier considérablement en taille. Et il existe d'autres vertébrés, en particulier chez certains poissons. La portion codante n'est pas de 5%, mais est, disons, 8 fois plus importante, ou presque, et de l'ordre de, entre 20 et 40%, disons. Et donc il y a une énorme variabilité dans le pourcentage de, disons, de séquences non strictement utiles. Et c'est vraisemblablement l'évolution qui a fait fluctuer cette fraction de génome qu'on appelle non codant dans les différentes espèces. Et je crois qu'on n'a pas de réponse à la question pourquoi. Tout ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, c'est le cas. Il y a d'autres espèces où, au contraire, le génome est encore beaucoup moins compact que chez l'humain, où l'humain, disons, on a 5% d'utile. Il y a d'autres espèces où ça, c'est moins du pourcent, notamment certains végétaux, notamment, par exemple, le blé, où la quantité d'ADN non codante est extrêmement importante.
Monsieur ?
On dit que deux individus sur Terre ne sont pas identiques en dehors des vrais jumeaux. Ouais. Et par conséquent... Par conséquent, pour faire le séquençage, vous avez pris les chromosomes d'un individu, ou plusieurs individus, ou combien d'individus, et comment vous les avez choisis, et comment vous avez pu déduire que le séquençage public est commun à l'ensemble de l'humanité?
Alors, j'ai déjà fait allusion un peu au problème de la variation, c'est-à-dire que, effectivement, on va prendre une séquence comme référence. Cette séquence ne provient pas d'un seul individu, mais sera une séquence qui sera composite, qui proviendra de plusieurs individus. Et ces individus ont été, disons, choisis au hasard. Et ceci de la manière suivante. Il y a quelques années, on s'est rendu compte qu'en fait, les premières banques d'ADN sur lesquelles on travaillait, les premières banques de grands fragments sur lesquelles on travaillait, provenaient d'individus qui n'avaient pas été informés que leur ADN risquait d'être séquencé. Donc on a dû refaire de nouvelles banques de grands fragments, et cette fois-ci, en informant les gens que est-ce qu'ils étaient d'accord pour qu'éventuellement leur génome puisse être séquencé. Donc les gens ont consenti à ce que leur génome soit séquencé, donc ont donné... La façon dont on procède dans ces cas-là, tout ça est extrêmement simple. On fait un prélèvement de sang. Donc, dans le prélèvement de sang, on a des globules blancs. Dans les globules blancs, il y a un noyau. Dans le noyau, il y a de l'ADN. On va extraire cet ADN et on va fabriquer ces grands fragments que j'ai montrés tout à l'heure à partir de l'ADN qu'on extrait à partir de ces globules blancs. Donc, ces gens étaient d'accord pour donner un peu de sang pour qu'on fabrique ces banques de grands fragments et pour qu'on puisse ensuite séquencer ces grands fragments. Alors, on en a pris plusieurs, pour garder un anonymat, justement. Donc les individus en question, on ne les connaît pas. Maintenant, si eux voulaient se connaître, ils voulaient savoir que leur génome est séquencé, ce ne serait pas très difficile, parce que justement, vous avez fait allusion à toutes ces différences qu'on rencontre à peu près à raison d'un nucléotide sur 1000. Donc rien qu'en séquençant, mettons, 50 000 ou 100 000 bases, on pourra tout de suite savoir cette personne pourra tout de suite savoir si c'est son ADN conséquence ou si c'est un autre ADN. Mais, encore une fois, en parallèle de ce programme d'établissement d'une séquence de référence, bon, référence, c'est certainement à prendre avec une minuscule et pas avec une majuscule, s'établit aussi un catalogue de tout un grand nombre de variations, donc les fameux SNP dont j'ai parlé, et qui nous indiqueront toute une série de positions dans le génome où on observe des différences entre individus.
On aura finalement séquencé le génome humain beaucoup plus vite qu'on ne le prévoyait au départ. Maintenant, ma question est, combien de temps faudra-t-il pour annoter cette séquence ?
Et, mon cher Jean-Claude, je ne sais pas combien de temps il faudra pour annoter cette séquence, mais j'ai bien peur qu'il faille pas mal de temps. Et de toute façon, l'annotation va être, enfin l'interprétation va être un processus récurrent. Cette interprétation va s'enrichir constamment de toutes les données qui vont être produites, aussi bien, disons, en aval, c'est-à-dire sur des protocoles expérimentaux destinés, par exemple, à observer l'expression des gènes, ou bien des expériences destinées à connaître la fonction des protéines, par, disons, là aussi, il y a énormément de travail à faire et on ne sait pas toujours très bien comment s'y prendre. Et puis aussi, à côté de ces expériences en aval, il va y avoir tout un tas de données qui vont être obtenues en parallèle sur d'autres génomes. Donc, on va faire des comparaisons de génome à génome. Et là aussi, on pourra, disons, considérablement affiner l'interprétation qu'on fait de la séquence du génome. Mais ça va s'étaler sur un très grand nombre d'années. Enfin, très grand, hein. Un nombre assez important d'années.
On dit que l'homme et le chimpanzé ont énormément de gènes en commun et qu'il n'y a que 1% qui n'est pas commun.
Oui.
Je voulais que vous confirmiez ça d'une part.
Tout à fait.
Et d'autre part, est-ce que ces gènes se trouvent, par rapport aux chromosomes, sur les gènes spécifiquement humains, se trouvent, disons, sur certains chromosomes et pas sur d'autres?
Alors, on ne sait pas s'il y a des gènes spécifiquement humains. C'est une question qu'on n'a pas de réponse pour l'instant. Et il est possible qu'il y ait des gènes spécifiquement humains. Je pense que les premières choses qu'on va essayer de faire pour se comparer aux chimpanzés, ça ne va pas être de reséquencer le génome du chimpanzé, parce que ça coûte quand même pas mal d'argent, mais ça va être, dans un premier temps, d'essayer de comparer l'expression de tous les gènes humains chez l'homme, et dans des tissus humains et dans les tissus correspondants chez le chimpanzé. Et peut-être que là, on pourra déjà voir des différences, même si les mêmes gènes existent dans les deux espèces, peut-être ils ne s'expriment pas tout à fait dans les mêmes tissus, au même moment, au même stade de la différenciation, etc. Et peut-être plus que des problèmes de différence, enfin de gènes présents ou absents, ce sont des problèmes d'expression différents des mêmes gènes dans ces espèces qui font que nous ne ressemblons quand même pas tellement à un chimpanzé.
Monsieur d'abord, madame ensuite. C'est une question, oui, qui est un peu proche. Une question un peu proche. Vous avez dit qu'on descendait d'un faible nombre d'ancêtres communs, toute l'humanité. Et je voulais savoir, il y a aussi une théorie dans les revues scientifiques où on dit qu'on descend d'une Ève unique qui aurait vécu il y a quelques centaines de milliers d'années. Je voulais savoir qu'est-ce qui permet de dire ça. Et puis également, qu'est-ce qui fait que nous, les hommes, on diffère des hommes de Néandertal. C'était une mutation d'un ou de certains gènes il y a quelques centaines de milliers d'années.
Alors, pourquoi est-ce qu'on... De toute façon, bon, la lignée Néandertal est une lignée qui est sans doute parallèle à la lignée qui a donné naissance à l'espèce humaine, c'est-à-dire que leur ancêtre commun remonte plus loin. Mais enfin, nous avions certainement un ancêtre commun avec l'homme de Néandertal, même si nous ne descendons pas directement de l'ancêtre de Néandertal. Le problème de l'Ève unique... Je pense que ça reste quand même une interprétation un peu simpliste des résultats qu'on a aujourd'hui. Bon, il est clair qu'il y a beaucoup de... Enfin, on peut effectivement faire remonter l'ensemble des séquences mitochondriales à un ancêtre commun, mais on peut toujours faire remonter à un ancêtre commun
des choses qui se ressemblent. On peut toujours les mais ça veut pas du tout, ça veut quand même pas dire qu'on descend d'une ève unique. On descend aussi d'une cellule unique qui était là, ou la, disons la première forme de vie. On descend, on a de tout l'ensemble de la, de disons de la biosphère, l'ensemble du règne vivant a un ancêtre commun.
Je désirais savoir qu'est-ce qu'on brevetait, la découverte, l'innovation ou le savoir-faire. Et je voulais votre opinion à ce sujet.
Alors c'est une question difficile. Effectivement, on a tendance aujourd'hui à breveter énormément de gènes humains. La société Celera, dont j'ai parlé tout à l'heure, aurait actuellement plus de 20 000 brevets provisoires. Ce n'est pas vraiment des brevets, ce sont des brevets qui ensuite peuvent devenir des brevets, mais pour l'instant, on aurait déposé plus de 20 000 brevets provisoires de gènes, ce qui est absolument considérable. Ce qu'on brevette, c'est une application. Mais on a tendance à breveter des applications qui sont extrêmement génériques. C'est-à-dire que lorsqu'on a un morceau d'ADN, ce morceau d'ADN peut éventuellement servir, par exemple, à faire du diagnostic, bien qu'on en ait absolument, on en sache strictement rien. Peut-être qu'il ne servira à rien du tout. Alors, juste ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de breveter des applications qui sont très potentielles et qui, finalement, brouillent complètement le système. Donc, clairement, on est dans une phase où il y a une grosse incertitude parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça à breveter des morceaux d'ADN dont on n'a absolument aucune idée de la fonction, même si on le fait aujourd'hui, même aucune idée de l'implication d'un gène dans une pathologie ou que sais-je. Ça a été fait par un certain nombre d'entreprises donc qui ont essayé de se créer des énormes chasses gardées. Mais je pense que ces chasses gardées, et je pense même ces entreprises, n'ont pas beaucoup d'illusions sur le fait qu'elles ne vont pas être braconnées de manière systématique.
Justement, au niveau des applications, ça fait déjà maintenant plus de 5 ans qu'on connaît les génomes complets de plusieurs bactéries, et je voulais savoir s'il y avait des applications directes au niveau industriel ou pharmaceutique à partir de les séquences de ces génomes.
Alors, ça illustre exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, la séquence, c'est le point de départ, il ne faut surtout pas s'attendre à ce que les résultats soient rapides, une fois qu'on a la séquence. Parce qu'après, il faut faire de la biologie, et faire de la biologie, ça prend beaucoup de temps, et c'est de l'or, même pour des organismes aussi simples que des bactéries. Il y aura sans doute, il y a un certain nombre d'entreprises pharmaceutiques qui disent qu'ils ont déjà trouvé des cibles pour des agents antibactériens à partir de ces séquences de génome, mais même qu'ils ont des nouveaux antibactériens, je pense que même là, ce n'est pas demain qu'on va voir ces nouveaux agents antibactériens dans le domaine public, utilisés de façon thérapeutique. Mais
une dernière question.
Oui. Vous avez dit à un moment donné que la nature produit naturellement des OGM. Est-ce que justement on a fait des travaux sur la différence entre les OGM de la nature et les OGM produits par l'homme à l'heure actuelle?
Je pense que non, on n'a pas fait des travaux sur la différence entre les OGM produits par la nature et les OGM produits par l'homme. Fondamentalement, de l'ADN, c'est de l'ADN. Et de l'ADN qui passe d'une espèce dans une autre, c'est... Et ça, c'est ce qu'on a observé, encore une fois, c'est que des morceaux de génome d'une espèce sont passés dans d'autres espèces. Et on a clairement les évidences moléculaires qui confirment ceci. Donc, il y a des OGM naturels qui se font. Maintenant, est-ce qu'ils sont pareils que les OGM que fait l'homme? Est-ce qu'ils sont différents? Ce n'est pas tout à fait les mêmes gènes qui ont été transférés, mais fondamentalement, il n'y a pas de différence.
Mais merci beaucoup, Jean-Brice Marc.